léger, plus léger que l'air. Prenez l'air sur RCF avec Gilles Berger.
Bonjour à tous. Pour ce nouveau magazine de Plus Léger que l'air, nous avons le plaisir de recevoir Gérard Viola. Bonjour.
Bonjour.
Rappelons que tu es un des pionniers du parapente. On va le voir tout à l'heure. Tu étais au début de la création du CAF parapente. Et difficile de trouver un parapentiste qui ne te connaisse pas, puisque tu es un peu partout sur les sites de parapente de la région. Et surtout, tu as également une profession de réparateur vidéo. Tu as un magasin vidéo. Donc, ça t'amène à connaître pas mal de gens. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Comment est-ce que tu as plongé dans la planète parapente ?
Oh, de manière très simple, parce que j'ai commencé par la montagne, je faisais de l'alpinisme avec ma femme, et puis un jour, en faisant la cime du Vallon, dans le Val-Gaudemar, et ben, au moment de redescendre, on enfonçait dans 40 cm de neige molle, et on a vu deux gars sortir des chiffons de couleur avec des ficelles. Ils sont tirés sur les ficelles, et ils sont partis en volant. Et là, j'ai juré à ma femme que je redescendrai plus jamais à pied de l'Olan, et je suis jamais redescendu à pied de l'Olan.
Bon ben voilà, ça c'est une vocation. Et les chiffons de papier à l'époque étaient avec très peu de finesse, ils faisaient des gros ploufs, non ?
Ah oui, mais c'est pour ça d'ailleurs que c'était des sites comme l'Olan qui servaient à voler, parce que de grosso modo de l'Olan à la Chapelle, il y a un de finesse quoi, en gros, en bas.
Ça c'était vers quelle année ?
C'était en 1990.
Donc tu es venu avec le para-alpinisme, hein, comme on
exactement.
Peut dire. Qu'est-ce qui se passait à l'époque ? Il y avait rien concernant le parapente à l'intérieur du CAF ?
Eh ben au CAF, apparemment, il y avait déjà des gens qui volaient en para-alpinisme, justement, mais qui n'avaient pas monté de section parapente au sein du CAF. Il y avait sur Gap un ancien club dont j'ai oublié le nom, mais que je n'ai pas connu, moi, puisqu'à l'époque, il partait un petit peu en déconfiture. Et tous les gens qui faisaient un peu du para-alpinisme étaient tous déjà affiliés au CAF, puisqu'ils faisaient de la montagne. Et disons que c'est tous ces gens-là, en particulier Hervé Svetloff à l'époque, qui avait commencé à mettre l'idée de créer une section. C'est d'ailleurs lui qui a créé la section au départ.
Comment ça s'est passé ? Les gens se sont rapidement regroupés. Il y a eu combien de personnes au début ?
Oh, je pense que dès le départ, on a vite été 20-25 à peu près. Des gens qui étaient tous du para-alpinisme, Bertrand, Serge, Christian. Bon, je ne peux pas te donner tous les noms de famille parce qu'il y a du monde. On a créé la section. Et puis après, je ne sais pas, c'est devenu quelque chose qui s'est... C'est une mousse qui a pris naturellement, quoi, en fait, voilà, parce que c'était des gens passionnés, parce que c'était des gens qui aimaient partager et qui aimaient pratiquer ensemble. Mmh. Et voilà, et ça s'est devenu une grosse section du CAF de Gap.
Et comment ça s'est passé pour l'apprentissage ? Les gens se sont mis tout seuls à pratiquer sans... Ou alors il y a eu quelqu'un qui s'est dévoué pour l'école ?
Non, il n'y a jamais eu de formation au sein du CAF de Gap. Mmh. Tous les gens qui ont appris à voler ont appris dans le cadre d'une école. Alors il y a quelques apprentissages sauvages à droite à gauche qu'on a formellement condamnés. Il faut absolument passer par une école avec des gens formés, de manière à avoir au minimum une formation de base un peu sérieuse. Après, on complète sa formation dans le cadre d'un club, avec l'expérience des anciens, avec tout ce que peut apporter l'aide des uns et des autres. Mais il faut passer par une école, et nous, on a toujours refusé de faire de l'apprentissage sauvage.
Et à cette époque-là, l'école se faisait sur quel site ?
Alors, l'école se faisait principalement dans la région, sur les sites de Aspre et de Chabre, vers l'Aragne et vers Serre, avec des écoles qui étaient basées là-bas, qui ont disparu d'ailleurs depuis, mais les sites restent toujours actifs par contre.
Donc il y avait pas le site du Cairn n'était pas encore
non, il y avait créé. déjà une école sur Orcières-Merlette qui était animée par Marc Lourdeau qui s'occupe de la station de Chaillol je crois maintenant qui a revendu son école qui marche maintenant s'appelle toujours Fusion d'ailleurs, mais nous à l'époque on les connaissait pas bien et donc le Cairn on n'y allait jamais. Je crois que moi j'ai dû découvrir le Cairn facilement 7 ou 8 ans après.
Ben je recevrai prochainement Laurent Pellissier qui s'occupe de l'école Fusion, voilà. Du Cairn. Alors que le Cairn maintenant est un site très pratiqué. En
ah oui, oui, très 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 utilisé parce qu'il est très très pratique, avec, qui permet des vols très très agréables et très sympathiques. Ceci dit, ce n'est plus le parapente du départ, ce n'est plus le paralpinisme. Là, maintenant, on est dans le vol libre et on est dans une notion de vol qui s'apparente plus au vol des deltas et des planeurs qui cherchent à rester en l'air longtemps, à faire de la distance, alors qu'avant, nous, on cherchait qu'à redescendre des montagnes au départ.
Ouais, ouais.
Et aujourd'hui, moi, je pratique encore un petit peu le paralpinisme, mais c'est 1% de mon activité parapente et c'est 90%. Aujourd'hui, c'est le vol de distance, le vol sur site de durée. Voilà.
Et toi, tu as le boulot qui te permet éventuellement de voler entre midi et deux, toi, carrément.
Oh, je l'ai fait pendant pas mal d'années. À l'époque, on volait beaucoup, beaucoup sur Charence. Je partais vers midi de mon magasin. Je montais comme un furieux à Charence. On volait et à 2h15, on était de nouveau au boulot ou 2h, quoi. Des fois un peu en retard. Et puis les jours où c'était vraiment très bon, bah, des fois, le boulot, bah, il pétait, quoi.
Ça, c'est formidable.
Oui, alors, c'était quand même pas très souvent que ça permettait de le faire. Mais c'est vrai que bon, l'avantage d'être à son compte, c'est que ça permet d'avoir une certaine souplesse. Et bon, voilà, on a les inconvénients, on a d'autres avantages.
Alors, je crois que tu as un autre avantage, c'est que tu as réussi, je ne sais pas si tu as réussi de toi-même à convaincre toute ta famille, mais en tout cas, toute ta famille vole, puisque ta femme et ton fils volent.
Voilà, en fait, j'ai trois garçons, ils ont tous les trois volé. Il y en a deux qui ont arrêté, parce que chez nous, ce n'est pas une obligation de faire du parapente.
Heureusement.
Voilà. Et par contre, effectivement, celui du milieu, lui, a continué. Ma femme vole toujours, moins que moi, de façon moins passionnée. Comme toutes les femmes, elles sont plus raisonnables que nous. Mmh. On le sait. Mais avec mon fils, nous, on a gardé cette passion très très forte et on a partagé des très très gros moments ensemble.
Et comment c'est venu ? C'est toi qui as initié un peu le mouvement ou alors ils sont venus d'eux-mêmes au parapente ?
Non, non, on a toujours tout fait ensemble avec ma femme au départ. On faisait de la photo, on faisait de la randonnée, on faisait de l'alpinisme, après du paralpinisme, après du parapente. Et on a toujours tout partagé ensemble et je crois qu'on ne pourrait pas imaginer faire une passion aussi prenante chacun de son côté. C'est pas possible, je pense que c'est qu'il y aurait quelque chose de cassé dans le couple. Donc en fait, on l'a pratiqué ensemble, c'est devenu quelque chose qui nous a plu à tous les deux, après plus ou moins passionnés, comme je le disais il y a quelques secondes. Et puis après, ben Eric, lui, a commencé à pratiquer les sites de parapente, il avait 9 ans, il a commencé à voler seul, il avait 11 ans. Et puis aujourd'hui, il en a 25 et il vole mieux que moi maintenant.
C'est un accro vraiment complet du parapente.
Eh oui.
Mais est-ce qu'à 9-11 ans, c'est pas un peu jeune de démarrer comme ça ?
Ça dépend tout de la maturité de la personne qui commence. À 9 ans, il faisait du saut de puce sur les pentécoles de Rabou. À 11 ans, il volait vraiment tout seul. Mais à 11 ans, il avait... Alors, je ne veux pas être prétentieux, mais je pense qu'il avait une maturité qui n'était pas celle d'un gamin de 11 ans. Dans sa classe, il était bizarrement un peu décalé, quoi. Et c'est vrai que quand tu mets ta vie au bout de tes mains et au bout de tes gestes, ça te donne une certaine maturité. Je pense qu'il l'a acquis à ce niveau-là. Bon, avec d'autres expériences de la vie dans la famille aussi, hein. Mais effectivement, il avait ce calme et cette maturité dont il avait besoin pour pouvoir faire du parapente à cet âge-là. Et il n'a jamais fait de grosses bêtises et... S'il en avait fait, je l'aurais vite arrêté, de toute façon.
Et oui, oui. C'est vrai que une fois qu'il a décollé, tu n'as pas beaucoup de contrôle sur le gosse qui
non,
vole.
Non, non, là, il faut faire confiance au calme. Et puis, bon, il y a quand même les liaisons radio hein, qui permettent d'orienter l'action, mais quand même...
Un des rituels de notre émission, c'est d'essayer de parler du plus beau vol que tu aies fait. Tu as fait des tonnes et des tonnes de vols de rando, de distance. Donc, qu'est-ce que tu as trouvé comme vol le plus fabuleux ?
Ah, le vol le plus fabuleux qui me soit arrivé de faire... Et c'est un vol de distance que j'ai pratiqué entre le site des Richards à Pont-du-Fossé et la Savoie, Praz-sur-Arly, juste avant Megève, Chamonix. Mais ce qui est vraiment extraordinaire dans ce vol, en fait, c'est vrai qu'il fait 155 km, c'est vrai qu'il a duré 7 heures, mais c'est surtout que je l'ai fait côte à côte avec mon fils et que l'on a pu poser dans un cri de joie devant le chalet de nos meilleurs amis parapentistes de la région de Praz-sur-Arly.
Ah ouais.
Voilà. Là, c'était vraiment le top du top.
Et comment tu as pu faire un vol côte à côte ? Vous êtes partis en même temps ou vous...
On est partis en même temps. On s'est presque suivis jusqu'à, on va dire, le Taillefer avant Grenoble. Et à partir du Taillefer, on s'est rejoints. Et là, on ne s'est plus quitté. On a tout fait bout d'aile dans bout d'aile. On a posé bout d'aile dans bout d'aile. On a posé à 15 secondes. On a dû démarrer à 45 secondes d'écart. On a posé à 10 secondes d'écart.
Ah, c'est incroyable. Mais moi qui n'ai jamais fait ce vol, hein, en définitive, tu pars des Richards et tu dois longer la chaîne.
On suit la route de Grenoble, grosso modo. On rentre un petit peu dans le Taillefer. On la quitte un petit peu quand on rentre vers le Taillefer. Après, on passe sur Belledonne. Champs-Rousses, donc en fait toute la Belledonne. Et puis après, on continue les reliefs qui longent vers Albertville. Mmh. Et après, on saute derrière Albertville. Et grosso modo, là, on s'est posé après sur Arly. Le but et le record de Richard, qui n'est pas du tout le mien, hein, mmh, est Chamonix. Hein.
Ah, quand même, ouais. Mais moi, j'ai été faire le stage SIV à Annecy. Donc, tu passes également sur le bord du lac d'Annecy?
Pas du tout. On est bien avant. Il faudrait traverser à gauche et aller sur Annecy. Nous, non, on reste sur la droite, là.
Oui, et tu passes au-dessus des gorges d'Arly.
De l'Arly.
De l'Arly,
voilà.
Ouais.
On peut passer par les gorges de l'Arly, on peut passer aussi par la droite pour aller sur Chamonix, plutôt par le col du Joly, les condamines de Montjoie, donc un petit peu plus à droite. Et effectivement, nous, on était restés à gauche parce qu'on savait qu'il y avait les copains qui étaient à Prat et on voulait poser devant chez eux.
Ouais, d'accord. Ouais, je suppose qu'ils vous ont accueilli avec le...
Ils étaient même pas là.
Ils étaient même pas là.
On les avait en radio quand même parce qu'eux, ils étaient sur une compétition à Bourg-Saint-Maurice à ce moment-là. Mais bon, c'est pas grave, on est quand même rentré, on a quand même bu les bières. Hein.
Quand tu fais quelque chose comme ça, il faut que quand on aille te chercher là-bas, évidemment, pour te ramener.
Alors effectivement, le vol de distance, il faut revenir, hein, y a pas de secret. Alors on peut soit se débrouiller en stop, parce qu'avec les parapentes, on peut le faire. Bon, il se trouve qu'on a un club qui a, je dirais, un cœur. Voilà, on a un club qui a un cœur. Et dans ce club, bah, quand il y en a 10 qui partent, il y en a forcément 2 ou 3 qui ne vont pas arriver à partir sur loin. Donc ils vont revenir, ils vont prendre les voitures et ils vont suivre les autres avec le plaisir de leur dire continuez, on vous suit. Et c'est vrai, quand tu es en l'air et que tu as une voiture qui te suit et qui te dit de toute façon allez-y les gars jusqu'au bout, bah, c'est extraordinaire parce que tu sais que tu peux aller jusqu'où tu veux aller et que tu auras. C'est simple, ce jour-là, c'est Franck Capdeville qui nous suivait avec son Kangoo. On n'avait pas fini de plier les voiles, la voiture était à côté de nous.
Ah ouais, dis-donc. Oui, c'est vraiment un gros cœur accroché. Oui. On se pose des questions de base. Les radios, ça passe tout le temps quand
non,
tu es comme ça?
Non, ça ne peut pas passer tout le temps. Disons que si tu es en l'air avec un autre parapentiste qui est en l'air, ça passe très très loin. Très très loin. Par ouais. contre, s'il y en a un qui se vache dans le fond d'une vallée, qui est toi, tu te vaches dans la vallée d'à côté, dans l'autre fond de vallée, là, tu n'auras pas de liaison radio. Mais on a les téléphones portables pour ça aussi.
Ouais, ouais. Voilà.
Alors aujourd'hui, entre les radios et téléphones portables, on arrive quand même vraiment à rester en contact facilement.
Et pour un vol comme ça, tu as besoin d'un GPS ou c'est pas nécessaire?
Alors le GPS, moi j'ai fait pendant des années sans GPS, ça m'a jamais empêché de faire les vols, hein, et aujourd'hui c'est vrai qu'on a même des Altivario GPS intégrés. Mmh. Alors c'est intéressant, ouais. C'est le top. Mmh. Ça permet effectivement d'avoir des tas d'informations. On passe pas la journée à regarder le GPS. On écoute le vario comment on fait pour savoir quand ça monte. Le GPS nous sert dans un but bien précis, c'est de connaître la vitesse que l'on a par rapport au sol, de manière à connaître le vent qui nous pousse ou qui nous retient, qui nous empêche d'avancer. Parce qu'effectivement, si on voit sur le GPS affiché 75 km/h, en sachant qu'une voile vole bravo à 30-35 km/h, on va dire, pour pas prendre de risque, on sait qu'on est poussé par 32 vents. Et que si on passe derrière une crête avec 30 km/h de vent, on risque de se faire vraiment lessiver la tête.
Il y a des moments où tu dois hésiter pour savoir le cheminement, quoi. Donc est-ce que, par exemple, tu rencontres des oiseaux qui t'aident?
Toutes les informations sont utiles à ce moment-là. Toutes les informations. Des arbres au sol, des feuilles qui montent, un oiseau qui vole, une ombre de nuages, une barbule qui monte sous un nuage, toutes les informations sont à utiliser. C'est clair qu'on n'est pas en train de calculer tout le temps, mais c'est presque devenu naturel. Au bout d'un moment, quand tu voles beaucoup, tu sais utiliser un petit peu tout de suite, tac, toutes les informations que tu as. Ce ne sont pas toujours des résultats bons. Hein. L'oiseau, si tu vas dessous et que lui, la pompe, elle est finissante, eh ben, tu l'as perdu. Mais c'est comme quand tu vois un collègue devant, c'est pareil. On essaye de voler en groupe aussi. Ça permet d'avoir des informations des autres pilotes qui sont devant, sur le vent, sur les conditions, sur les endroits où ça monte mieux aujourd'hui que la fois d'avant, parce qu'on a ces parcours qu'on connaît un peu. Après, il faut utiliser tous les paramètres possibles pour optimiser le vol, ou le parcours, passer devant, passer derrière, voilà. Mais bon, c'est jamais deux fois pareil.
Bon, bah écoute, on imagine un petit peu ton vol, ça donne envie d'y aller et de faire pareil.
Bah, les GPS permettent aussi ça aujourd'hui, c'est qu'après le vol, on peut décharger sa trace sur des logiciels tels Google Earth et revivre en trois dimensions tout le vol.
Ouais, ça c'est magnifique. Ouais, ouais. Ça, j'ai découvert ça, c'est extraordinaire. Ouais. Eh bien, écoute, on arrive au terme de cette émission. Donc merci Gérard de nous avoir fait partager toutes tes émotions. À bientôt pour une nouvelle émission. Oh.
Retour sur Terre, difficile de quitter la troisième dimension après cette émission de Gilles Berger.